Rebelles Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelles Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelles.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelles.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelles.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelles.fr.
Bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelles Hebdo. Micro Rebelles, c'est la radio des luttes sociales, des alternatives politiques, sociales et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro Rebelles est diffusée en direct sur le site de notre web radio micro-rebelles.fr chaque vendredi à partir de 18h. Et nos amis, les radios associatives de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, Radio PFM 99.9 et Radio Plus 104.3 nous rediffusent toute la semaine, notamment Radio PFM nous rediffuse le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30, le dimanche à 14h et Radio Plus nous rediffuse le mardi à 12h. Donc pour cette nouvelle édition de Micro Rebelles Hebdo, je tenais à commencer par vous signaler un moment important dans la vie de notre web radio. C'est une assemblée, un atelier que propose Micro Rebelles le samedi 26 janvier de 10h à 12h30. Et c'est au LAG, le lieu autogéré du bassin minier, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Vous savez que depuis plusieurs semaines, Micro Rebelles est complètement investi dans les mouvements sociaux. Les gilets jaunes, les lycéens, les lycéennes, les étudiants, les étudiantes, les stylos rouges. Tous ces reportages sont à retrouver sur le site de notre web radio. Eh bien, lors de cet atelier, le samedi 26 janvier de 10h à 12h30, nous avons souhaité vous inviter, les auditrices, les auditeurs, à venir échanger avec nous sur ces mouvements sociaux en cours et sur le travail journalistique effectué par Micro Rebelles, le positionnement de notre web radio devant ces mouvements sociaux et puis plus largement sur ce qu'est l'engagement d'une radio alternative comme Micro Rebelles. Je vous redonne donc les informations pratiques. C'est au LAG, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin, le samedi 26 janvier, à partir de 10h et jusque 12h30, et vous y êtes toutes et tous bienvenus. Alors cette semaine, Micro Rebelles est en effectif réduit en quelque sorte, hein, puisque notre ami Jonathan est mobilisé à son travail. Jonathan, on te fait un petit coucou si jamais tu nous écoutes. Nous sommes donc trois. Je suis Lucien, il y a également Luc.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et Aurélie.
Bonsoir.
On va commencer, comme chaque semaine, par un peu d'actualité, hein, très rapide pour nous mettre un peu dans le bain de ces mouvements actuels. Alors cette semaine, l'ONG Oxfam a publié une annonce concernant les richesses de la planète. Eh bien, la moitié des richesses de la planète est détenue par 26 personnes. Autrement dit, 26 milliardaires disposent d'autant de richesses que l'autre moitié de la planète, autrement dit, sont aussi riches que 3,8 milliards de personnes réunies. Je crois que c'est une donnée qui fait réfléchir en ces mouvements d'actualité sociale un petit peu chargés. Alors la personne la plus riche du monde, hein, c'est pas inintéressant de le noter, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos qui est le PDG de la multinationale Amazon. Donc Jeff Bezos, sa richesse, c'est 112 milliards de dollars. Et on peut noter que sa fortune a progressé de 39 milliards en un an. Autrement dit, en un an, Jeff Bezos s'est enrichi de 39 milliards de dollars pour devenir l'homme le plus riche du monde. Donc ces 26 milliardaires qui possèdent autant que la moitié de l'humanité, eh bien l'année précédente, ils étaient 43. Autrement dit, il y a une concentration des richesses qui se durcit, hein, d'année après année. Et la France, eh bien, parmi ces 26 milliardaires, on a deux Français, Bernard Arnault, qui est au quatrième rang, qui c'est le quatrième homme le plus riche du monde, c'est le patron de LVMH, et Françoise Bettencourt, qui est du groupe L'Oréal. On peut noter que si on se limite strictement à la France, que 8 milliardaires en France possèdent autant que les 30% les moins riches. Autrement dit, j'ai pas fait le calcul, mais on pourrait estimer que 8 milliardaires possèdent autant en France que 15 à 20 millions de personnes. Voilà, ça c'était une première info qui nous venait de Oxfam, l'ONG, sur la question des richesses dans le monde. Une autre information, ATTAC, l'association contre les transactions financières, ATTAC a publié un rapport sur les multinationales. Et en France, les entreprises du CAC 40 réalisent 1300 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit plus de la moitié du PIB, le produit intérieur brut, de la France. Et on peut noter, dans le même temps, les effectifs de ces entreprises ne cessent de diminuer. Voilà, c'était quelques infos qu'on souhaitait commencer à partager avec vous. Et maintenant, on va, comme chaque semaine, vous proposer notre agenda culturel et social. En l'absence de Jonathan, c'est Luc que nous écoutons.
Samedi 26 janvier, il y aura une réunion publique sur les compteurs Gaspard et Linky à 10h au sous-sol de la mairie d'Avion, et c'est organisé par le collectif anti-Linky Avionnais. Également samedi 26 janvier, marche pour le climat avec deux rendez-vous en région. À 9h30, place de la gare à Arras, c'est organisé par le collectif Arageois pour le climat, que vous pourrez retrouver sur Facebook. Et le même jour, à Lille, c'est à 14h porte de Paris que démarrera le rassemblement. Il commencera par une action symbolique en hommage aux 1700 personnes décédées prématurément en 2018 en raison de la pollution de l'air de la métropole lilloise. Le cortège rejoindra ensuite le mouvement des Gilets jaunes, place de la République, pour, je cite, « affirmer la nécessité de construire ensemble une écologie populaire, juste, sociale et solidaire ». Toujours le samedi 26 janvier et toujours dans l'état d'esprit de faire des marches, il y aura une marche déguisée organisée par le mouvement pacifique 2CHT Arageois, comité contre la hausse des taxes. Donc c'est le comité qui s'est constitué suite au mouvement des Gilets jaunes Arageois. Il donne rendez-vous au parking du fast-food à l'entrée nord d'Arras à 14h. Je cite, port du gilet jaune obligatoire, musique acceptée, bonne humeur obligatoire également. Ça fait beaucoup d'obligations. Mercredi 30 janvier à Méricourt, la municipalité organise une réunion publique à 18h. Au programme, une intervention du nouveau collectif ACAD, anti-compteurs communicants de l'Artois d'Ouézy. Les compteurs communicants, c'est Linky et Gaspard. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions à propos de l'installation de ces compteurs, de savoir si vous êtes oui ou non dans l'obligation d'accepter leur installation. On arrête tout, qu'est-ce qu'on redémarre ? C'est un atelier Penser Ensemble organisé par CLIS 21 qui aura lieu au lac à Liévin le 2 février à 10h et jusqu'à 12h30. Le lac, c'est au 23 avenue Jean Jaurès. L'actualité de ces dernières semaines a fortement remis sur le devant de la scène la question du pouvoir d'achat. Mais pour acheter quoi ? Et donc pour produire quoi ? On nous invite sans cesse à la démocratie participative et à la citoyenneté pour décider ensemble du vernis qui agrémente notre quotidien. Invitons à décider aussi de la société de consommation et de la vie qu'elle nous impose chaque jour, chaque semaine, chaque année. Que faut-il produire pour satisfaire nos besoins ? Quels besoins voulons-nous satisfaire ? Voilà les questions qui seront posées ce jour-là. On vous invite, c'est ouvert à toutes et à tous, c'est organisé par CLIS 21 et vous pouvez les contacter au 03 21 45 78 24 ou aller voir sur leur site www.clis21.com. Vous pourrez rester prolonger le débat autour d'une auberge espagnole, amener ce que vous souhaitez y trouver. Elle sera suivie d'une foire aux installs à partir de 14h. La foire aux installs, c'est un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir le logiciel libre, l'entraide ou juste discuter. Vous pouvez ramener votre ordinateur si vous souhaitez que des logiciels libres soient installés dessus. Dans l'agenda de Micro Rebelle, mercredi 30 janvier, nous animerons un atelier radiophonique pédagogique sur la question de la lutte contre l'illettrisme. C'est au café Nino Kid, le café des enfants à Liévin, au 26 rue Victor Hugo. Alors il reste encore des places, mais il faut être adhérent du café Nino Kid. C'est de 15h30 à 17h, je l'ai dit, au café Nino Kid. Enfin, un peu de copinage, nos très très bons amis de Radio PFM qui diffusent cette émission auront une exposition qui leur rendra hommage et retracera l'histoire de la radio depuis 1981. Ça se passe dans les locaux de Big Star Records, disquaire indépendant situé au 8 rue des Balances à Arras. L'exposition sera visible jusqu'au 16 mars 2019.
Eh bien, merci Luc. On poursuit donc ce micro-rebelle hebdo par une revue de presse, un tour d'horizon de l'actualité locale et au-delà. On va traiter également d'autres articles. Alors, j'ai souhaité commencer cette revue de presse par un même sujet traité différemment par deux journaux locaux. Alors, le sujet, ce sont les débrayages au sein de l'entreprise ARC. ARC, c'est une entreprise très ancienne. Auprès de Saint-Omer, une entreprise qui comporte plusieurs milliers de salariés. Il y a 5000 salariés à l'usine ARC et il y en a eu beaucoup, beaucoup plus dans le passé. Alors le contexte, la direction d'ARC souhaite mettre en place une nouvelle organisation basée sur des mesures d'allongement du temps de travail. Suite à cette annonce, des débrayages ont lieu dans l'entreprise, des débrayages qui ont concerné jusqu'à 1200 salariés. Et donc le premier traitement, c'est celui de la Voix du Nord. La Voix du Nord qui a choisi d'évoquer les difficultés de l'entreprise et qui donne donc la parole aux dirigeants de ARC. Je vous cite quelques extraits. Si elle a entendu le message et accepte de ne pas toucher au temps de travail, la direction a réaffirmé le besoin, à court terme, de trouver 32 millions d'euros d'amélioration de profitabilité. Il est impératif de trouver des solutions d'ici au 30 janvier. Dans le cas contraire, nous serons dans l'impossibilité de payer les salaires de mars, le 11 avril, assure Tristan Borne, directeur général d'ARC. À court de trésorerie, ARC s'emploie à rassurer les investisseurs pour qu'ils redonnent de l'oxygène à l'entreprise. De nouvelles négociations s'ouvriront lundi avec l'objectif de trouver, avec les syndicats, 9 millions d'euros d'économies sur la masse salariale. Heureusement, Liberté Hebdo choisit de son côté de donner la parole aux travailleurs. Extrait. Le plan de la direction coûterait 20 jours de travail en plus par an. Les gens ne sont plus prêts à accepter quoi que ce soit, explique Frédéric Speck, secrétaire CGT du comité d'entreprise. D'autant que beaucoup de salariés sont usés par les plans qui se sont succédés depuis la fin de l'ère Durand, la famille à l'origine de la cristallerie d'Arc, longtemps le plus gros employeur du département. Le site emploie actuellement plus de 5000 personnes. Voilà, Micro-Rebelle aura sans doute l'occasion de revenir sur les développements de cette lutte. Une info dans la Voix du Nord concerne les suppressions de classes dans les écoles primaires. Extrait. Le dispositif n'a pas encore été pensé en détail, mais ce qui est sûr, c'est que le Pas-de-Calais n'aura aucun poste supplémentaire à la rentrée prochaine. Or, la simple continuation du dispositif REP, des CP dédoublés vers les CE1 dédoublés, nécessite une centaine d'enseignants. Les syndicats craignent plus d'une centaine de fermetures de classes dans le primaire. Un groupe de travail est prévu à l'inspection académique pour essayer d'imaginer des solutions les moins douloureuses possibles. On a l'impression de revenir au temps de Sarkozy. Depuis 3 ans, c'est de pire en pire. La carte scolaire définitive sera connue début février. Toujours concernant l'enseignement, la Voix du Nord évoque la forte augmentation des frais de scolarité des étudiants étrangers annoncée pour la rentrée 2019 par le Premier ministre dans le cadre du plan Bienvenue en France. Oui, Bienvenue en France, ça ne s'invente pas. La Voix du Nord indique qu'une motion contre la mesure a été adoptée à la Fac de Lille à l'unanimité. Cette université accueille 6500 étudiants extra-européens. Extrait de l'article du journal. Les frais d'inscription s'élèveront ainsi pour les nouveaux arrivants à 2 770 € en licence, contre 170 € actuellement, et 3 770 € en master et en doctorat, contre respectivement 243 € et 280 €. Une catastrophe selon le syndicat Sud de l'Université de Lille, qui, avec 5000 étudiants extra-européens accueillis, fait partie des deux universités les plus cosmopolites de France, avec celle d'Aix-Marseille. On a présenté une motion contre la mesure qui a été adoptée à l'unanimité par le conseil d'administration, se félicite Léo Petit, du syndicat Sud Solidaire Étudiant, sans qu'une ligne ne soit modifiée, ce qui est rare. Et pour cause, les arguments développés par le syndicat et le président de l'université sont sensiblement les mêmes. J'étais jeudi à un débat avec d'autres présidents d'université, explique Jean-Christophe Camard, le président, et nous avons tous demandé un moratoire pour que cette réforme soit différée et que le fonds soit retravaillé. Le processus a été trop rapide et nous nous interrogeons sur les motivations du gouvernement. En clair, l'argent gagné grâce à la hausse des frais d'inscription ne va-t-il pas être déduit de la prochaine dotation accordée par l'État à l'Université de Lille ? S'il s'avère que la motivation est uniquement budgétaire, nous serons vent debout contre. Le président de la fac de Lille dénonce également une mise en œuvre encore trop floue. Nous ne pouvons même pas répondre aux questions concrètes des étudiants. Autre lutte sociale, et toujours dans la voie du Nord, c'est à Dourges, et ce sont les salariés magasiniers de l'entrepôt Décathlon qui débrayent à l'appel de la CGT et de la CFDT. Extrait. Certes, une trentaine de salariés sur quelques 170 qui débraient 2 heures sur une journée, c'est pas ça qui va mettre à mal la production, concède Michel Delmotte, élu CGT. Mais c'est historique chez Décathlon. C'est dire le ras-le-bol des gens, souligne son confrère CFDT, Johnny Rickens, tout en rappelant que le 9 janvier, ils étaient même une cinquantaine lors d'un premier mouvement. Dans le viseur, la dernière négociation annuelle obligatoire, la NAO, qui, selon les deux représentants syndicaux, a tourné au fiasco. On nous a dit d'emblée que la proposition faite serait unique, en gros, qu'il n'y aurait pas de marge de négociation, soit une prime exceptionnelle de 300 € défiscalisée, la fameuse prime Macron, des tickets restaurants revalorisés à 6 €, soit 2 € de plus qu'actuellement, et une augmentation de 1,6% du salaire. C'est pas suffisant pour finir les fins de mois, insiste Johnny Rickens. Je termine cette revue de presse, avant de donner la parole à Aurélie, par un dossier de La Voix du Nord, cette semaine, un dossier intitulé « Transport public, petit à petit, la gratuité fait son nid ». Reconnaissons que dans le bassin minier, avec la mise en place prochaine des nouveaux bus, cette question de la gratuité est de plus en plus posée. Je vous lis les échanges qu'a pu avoir La Voix du Nord dans le Dunkerquois, qui, on l'a déjà souligné, a maintenant un réseau de bus gratuit. Je ne prenais jamais le bus avant, et maintenant je le prends tout le temps. Marc habite à Leffrincouc, à l'extrémité est de la ligne C2, qui mène dans le centre-ville. C'est peu dire que la gratuité mise en œuvre à Dunkerque, depuis le 1er septembre, lui a changé la vie. La voiture, c'est un confort, une habitude, mais je commence à découvrir les avantages du bus. Pas de souci de parking, pas à faire attention à la voiture, une petite économie. Et dans la voiture, vous ne pouvez rien faire d'autre. Dans le bus, je suis libre de faire autre chose, aller sur Internet. Même sourire chez Amandine, qui se rend de Saint-Paul chez son copain avec son fils en centre-ville. Je prenais déjà le bus avant. Avec mes enfants, ça me revenait à 60 € par an. Donc ça fait une petite économie quand même, avance la jeune femme. Et puis, comme on est sûr qu'il y aura un bus toutes les 10 minutes, on n'a pas trop à penser à l'organisation. Parmi les heureux du passage à la gratuité, Hervé n'est pas non plus le dernier. J'ai 50 ans. J'étais conducteur de bus dans le privé. J'avais envie de revenir à Dunkerque, de me poser. Et comme avec le bus gratuit, il y a eu des embauches, j'ai candidaté et j'ai été pris. Bien, donc je vous le disais, je laisse la parole à Aurélie pour compléter cette revue de presse.
Merci. Un article paru dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci parle de la puissance insoupçonnée des travailleuses. Victor Hugo a dit « La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. Et il en est de même des travailleuses. En effet, selon l'auteur de l'article, Pierre Rimbert, elle représente le pouvoir ignoré du mouvement social. Aujourd'hui, les travailleuses représentent environ 51% des ouvriers et des employés, contre 35% en 1968. A contrario, chez les travailleurs, le taux continue de stagner. Alors que ces travailleuses deviennent de plus en plus nombreuses, les inégalités persistent. Salaire inférieur, sexisme au travail. Pourtant, ces mêmes femmes, travaillant pour la majeure partie dans les services publics, effectuent un travail de titan, pardonnez-moi l'expression, notamment dans les hôpitaux, les EHPAD, les maisons de retraite. Elles sont au cœur même du domaine social, et sans elles, le monde s'écroule. Pierre Rimbert dit, je cite, « Une population qui peut s'imaginer vivre sans haut fourneau, mais pas sans école, hôpitaux, crèches ou maisons de retraite. » C'est donc cela qui donne à ces travailleuses, cette puissance, ce point d'appui sur lesquels elles pourraient se reposer. Leur nombre, leur qualification et leur importance capitale, soulignons-le, les rendent indispensables dans notre société. Pourtant, on ne peut qu'être surpris. Pourquoi un rôle aussi important semble et est littéralement dominé par le monde des finances, composé de banquiers, de PDG, majoritairement de sexe masculin. Nous pouvons même dire qu'il s'agit là d'une pyramide inversée. C'est celui qui domine qui a le plus besoin de l'autre. C'est vrai, que ferait un haut fonctionnaire sans la femme de ménage, sans les infirmières, les nourrices, qui occupent en réalité une place centrale dans la vie de tous, et donc y compris dans la vie de ceux qui, jour après jour, contribuent à l'affaiblissement de nos services publics. En effet, l'auteur affirme le chantage à l'austérité des marchés et la prédation qu'exercent les géants du numérique sur les finances publiques à travers l'évasion fiscale se traduisent par des réductions d'effectifs ou de moyens dans les EHPAD, les crèches, les services sociaux. En résumé, pour le patronat, il s'agit au final de toujours faire plus avec toujours moins de moyens pour dépenser toujours moins d'argent. Et c'est justement à ce moment-là que la coalition de toutes ces femmes aux métiers divers et variés prend tout son sens. Il s'agirait d'un véritable retournement de situation sur l'échec politique et social par le biais de la conscience collective pour une société plus juste.
Petite pause musicale à présent. J'aime assez bien le nom de cette chanson. C'est un Unnamed Song of a Fake Unicorn. Alors, c'est un groupe qui s'appelle The Freak Fandango Orchestra. C'est du punk balkanique. We'll be right back.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Nous sommes donc toujours sur micro-rebelle, micro-rebelle.fr et chez nos amis de Radio PFM 99.9 et Radio Plus 104.3. Dans le cadre de notre émission Micro-Rebelle Hebdo, une émission d'actualité sociale, politique, économique, actualité des alternatives, et bien justement, on va maintenant écouter un court reportage, un court entretien qui concerne les élections à la Chambre d'agriculture. Vous savez que tous les 6 ans, la Chambre d'agriculture renouvelle ses représentants, et donc il y a des différentes listes qui sont soumises au suffrage des agriculteurs, des paysans, des paysannes, pour que ces listes soient renouvelées. Et donc nous avons donné la parole à Mathieu Glorian et à Pierre Damageux de la Confédération paysanne pour échanger autour des enjeux concernant ces élections professionnelles dans le domaine de l'agriculture.
Bonjour, Mathieu Glorian, paysan brasseur à Gavrel, installé depuis bientôt 2 ans et demi. Grâce à l'accueil sur sa ferme d'un autre paysan qui est plutôt près de la retraite, qui m'a permis de m'installer. Quoi. Voilà. Donc, en gros, je cultive de l'orge, j'en fais du malt et de la bière que je vends en direct, mais aussi à des magasins voilà, et des grossistes.
Bonjour, donc moi c'est Pierre Damageux, paysan à Los Angoël, installé en agriculture bio. Et puis je fais de la polyculture. En légumes essentiellement et céréales.
Alors vous êtes tous les deux candidats sur la liste de la Confédération paysanne aux prochaines élections à la Chambre d'agriculture. Déjà des détails pratico-pratiques pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est quand ces élections? Qui est concerné? C'est qui le collège?
Alors les élections professionnelles agricoles, elles auront lieu à la deuxième quinzaine du mois de janvier 2019. Ces élections, comme pour toutes les élections professionnelles, elles ont lieu tous les 6 ans. Donc ça veut dire, c'est comme pour les élections syndicales des salariés. Hein. En fait, il y a des élections régulièrement. Là on est arrivé à la fin de la mandature précédente. La Chambre d'agriculture, c'est un endroit qui regroupe des représentants élus de la profession agricole pour que ceux-ci soient nos représentants vis-à-vis de l'État, des administrations locales de l'État et aussi des autres organismes qui ont un lien direct ou un peu indirect avec l'agriculture. Quoi.
Alors, qui est amené à voter ?
Il y a plusieurs collèges. Le collège principal, c'est les exploitants en activité. Il y a un collège de retraités. Et puis après, il y a d'autres collèges, je ne sais plus exactement, mais c'est d'autres collèges de tout le... Les coopératives agricoles, les banques, tout ce qui est banque mutualiste, c'est tous les organismes qui sont coopératifs.
Alors peut-être pour dresser un paysage de la réalité aujourd'hui concernant ces représentants, aujourd'hui qui siège aujourd'hui? Quelles sont les sensibilités représentées? Où en est la Confédération paysanne?
Alors en fait, donc selon le résultat du vote lors de ces élections, les différents syndicats qui ont présenté des candidats vont avoir donc un nombre de sièges, mais aussi un pourcentage de voix. Donc le nombre de sièges, ça va être le nombre de sièges au sein de la Chambre d'agriculture, et le pourcentage de voix, c'est ce qui va déterminer la représentativité ou non du syndicat aux yeux des pouvoirs publics. Donc il y a un enjeu pour tous les syndicats de dépasser 10%. En dessous de 10%, on n'est pas, on n'est pas reconnu représentatif et du coup, l'État ne nous écoute pas quand on a des revendications à faire entendre parce qu'en fait, il considère qu'on n'existe pas. Il y a aussi une question financière, évidemment. Quand on est représentatif, ça ouvre le droit pour les syndicats à toucher des subsides de l'État pour les aider, pour aider ces syndicats à fonctionner et à faire vivre la démocratie dans la profession agricole. Quoi. Alors... sur ta question.
Merde. Alors donc, peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, donc j'imagine qu'il y a 6 ans, c'était la région Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui j'imagine que c'est les Hauts-de-France. Alors quel est l'état des rapports de force aujourd'hui? Qui est élu? Qui a quel pourcentage?
Aux dernières élections, la Confédération paysanne était autour de 16 ou 17%. Et donc, ça nous a. Alors, les listes sont. Même si les chambres. Nous, la chambre ici, elle est régionale. Les listes sont quand même départementales. Donc, il y a une liste quand même par département. Et encore maintenant.
Donc, tous les deux, vous êtes candidats sur le Pas-de-Calais.
Donc, nous, on est candidats sur le Pas-de-Calais. On est 18 ou 19 sur la liste, je ne sais plus exactement. Mais... Donc, voilà, oui.
Alors peut-être, avant d'entrer dans le détail des projets, une interrogation qui me vient, avec le fait que maintenant c'est Hauts-de-France, j'imagine que ça va affaiblir la Confédération paysanne. Autrement dit, il y a moins de votants potentiels pour la Confédération paysanne en Picardie qu'il y en a dans le Pas-de-Calais, donc il risque d'y avoir peut-être un affaiblissement de la conf.
C'est un risque, mais c'est pas encore vérifié. C'est un risque parce que, en effet, le profil des fermes en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie, c'est pas le même. On a des beaucoup plus grandes exploitations en moyenne en Picardie qu'en Nord-Pas-de-Calais. Ceci dit, les moyennes, ça cache parfois de la diversité, et il y a aussi des petites fermes en Picardie. Et il y a aussi des fermes diversifiées en Picardie. Et puis il y a des gens sur des grosses fermes qui ont hérité d'une grosse ferme dans un cadre familial et qui se mettent quand même à essayer de développer sur des grosses fermes des pratiques intéressantes, génératrices d'emplois, respectueuses de l'environnement. Voilà, donc en fait, il y a globalement, lors de ce scrutin, sur l'échelle régionale, on risque de baisser en représentativité, mais on y croit et on espère bien qu'on sera représentatif au 31 janvier.
Au Lakers, rien n'est joué.
Oui.
Alors on va peut-être maintenant rentrer peut-être un peu plus dans le détail des projets. Alors à ce type d'élection en général, bon, la FNSEA a ses troupes et son projet bien à elle, bien rodé. Il y a aussi peut-être la coordination rurale qui se présente, je ne sais pas s'il y a d'autres candidats, et puis il y a la Confédération paysanne. Donc est-ce que l'un et l'autre vous pouvez exposer un petit peu les projets de chacun et notamment celui de la Confédération paysanne?
Alors, pour parler de nos adversaires, puisque on est là pour les juger un peu, le syndicat coordination rurale, c'est un peu le syndicat anti-tout, quoi. Donc, on veut des primes, mais pas de contraintes. On veut pouvoir utiliser les pesticides comme on veut, sans dialogue avec la société. On veut pouvoir s'agrandir sans limitation et sans rendre de compte et sans préoccupation pour son voisin. Bon, j'exagère, hein, mais c'est un peu caricatural leur revendication. À la FNSEA, c'est moins caricatural, mais ceci dit, la FNSEA, elle est passée maître dans le double discours. Ça veut dire qu'ils ont des discours qui paraissent très sociaux. En public, mais derrière dans les pratiques, en fait, c'est eux qui organisent la restructuration de l'agriculture depuis 70 ans, quoi. Et ils l'ont fait main dans la main avec l'État parce qu'il y avait différents enjeux, hein, après la Seconde Guerre mondiale, savoir retrouver une agriculture très productive pour nourrir les classes, le baby boom à l'époque et tout ça. Mais maintenant que le contexte a changé, ils sont encore restés sur une vision assez productiviste et très corporatiste de l'agriculture qui est plus adaptée aux enjeux d'aujourd'hui. Et donc nous, la Confédération paysanne, on est pour une agriculture ouverte sur le monde, une agriculture qui a d'abord vocation à nourrir les gens, et puis aussi se renouveler, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de paysans, les campagnes se vident, et c'est moins évident, quand les campagnes sont vides, d'y lancer des dynamiques durables et constructives, quoi, hein, de créer des petits outils de production, des outils de transformation, des coopératives pour regrouper, pour mutualiser des services ou des machines. Tout ça, avec l'érosion du nombre de paysans, c'est pas forcément plus simple, quoi.
Une toute dernière question, je sais pas, Pierre ou toi. Justement, concrètement, il y a un programme avec des mesures phares que vous avez envie de mettre en avant. Il y a des... Ou alors est-ce que c'est plus une volonté de changer de fond en comble? Comment ça s'articule un petit peu les deux, des mesures concrètes et puis mesures peut-être plus générales? Pierre?
En mesures concrètes, il y a déjà la valorisation au niveau de la PAC des 52 premiers hectares qui avait été déjà promise il y a un moment donné par le gouvernement.
Alors là pour nos auditrices, nous dire, il faut que tu précises, hein, comment ça se passe la PAC, c'est quoi ces 52 hectares, comment ça s'articule?
En fait, 52 hectares à une époque, c'était la moyenne de la surface agricole des fermes en France. Et donc, on avait estimé.
Et donc la PAC?
Et donc la PAC, c'est la politique agricole commune.
Donc c'est un dispositif européen?
C'est un dispositif européen qui octroie des aides qui sont liées à l'activité, souvent liées à l'hectare, à la surface. Et donc, il y avait possibilité, à un moment donné, de valoriser un peu plus, de donner un peu plus d'aide sur les 52 premiers hectares. Et donc ces aides-là ont été érodées et pratiquement elles sont actuellement inexistantes. Et nous, on aimerait bien que ça soit remis à l'ordre du jour, qui permettrait quand même à beaucoup de petites fermes et de moyennes fermes d'être un peu plus compétitives.
D'autres mesures peut-être que vous avez envie de mettre en avant ?
Nous, en fait, là, l'essentiel pour les paysans, pour pouvoir s'installer et puis pérenniser son activité, c'est quand même l'accès au foncier, à la terre. La terre qui est notre principal outil de production, mais qui est aussi quelque chose de vivant, quoi, hein, qu'il faut préserver. Donc l'accès à la terre, avec une région, je parle pour le Nord-Pas-de-Calais, assez urbanisée et densément peuplée, il n'est pas évident, parce que déjà, il y a la concurrence avec les autres usages de la terre, hein, les terrains constructibles et tout ça, mais en plus, il y a les fermes qui s'agrandissent, quoi. Donc, là-dessus, on voudrait, nous, à la Conf, plus de régulation du marché du foncier. Ça veut dire, en gros, une attribution prioritaire des terres à ceux qui en ont le plus besoin pour générer un maximum d'emplois, que ce soit des emplois de paysans ou des emplois de salariés agricoles, et pas, quelque part... une attribution des terres qui se fait de manière opaque et un peu en coulisses comme ça se fait aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, c'est très difficile d'accéder au foncier parce qu'en fait, c'est un marché qui n'est pas du tout transparent, qui se joue entre les propriétaires, les notaires et puis les agriculteurs qui ont beaucoup de moyens, on va dire. Et il n'y a pas de transparence. Et ça, nous, depuis des décennies maintenant, la Confédération Paysanne, on réclame pour qu'il y ait de la transparence parce que sans transparence, il n'y a pas de démocratie et on ne peut pas faire vivre, on ne peut pas créer de l'emploi, faire des belles choses, quoi, voilà.
Très bien. Bon, peut-être pour conclure maintenant, les aspects pratiques pour voter, les agriculteurs sont informés comment ? Ils doivent faire une démarche concernant la Confédération Paysanne, il y a une adresse de contact, il y a un site internet. Enfin, comment est-ce qu'on peut concrètement aller plus loin avec la Conf ?
Pour voter, il faut être inscrit sur des listes. Les listes ont été arrêtées et normalement, c'est un fichier dans toutes les communes. Donc après, c'est un vote qui va se passer dans la deuxième quinzaine de janvier. C'est un vote par correspondance. Par internet ou par correspondance. Les gens vont recevoir chez eux les bulletins de vote. Et donc,
pour la Confédération Paysanne, y a une propagande entre guillemets qui est distribuée, il y a un site internet.
Oui, alors on essaie de faire campagne sur les outils internet d'aujourd'hui, hein, à savoir le web, mais aussi les réseaux sociaux. Même si on n'est pas vraiment des pros de tout ça. Donc le site internet, si vous voulez vous renseigner sur un peu nos propositions pour avoir une agriculture plus vivante, et donc c'est www.confédérationpaysanne.fr. Après, celui de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est la même chose, mais nord-pas-de-calais.confédérationpaysanne.fr.
Voilà, c'était Mathieu Glorian et Pierre Damageux de la Confédération Paysanne au sujet de l'élection des représentants à la Chambre d'Agriculture. On va faire une seconde pause musicale dans ce micro rebelle hebdo. Alors là, je préviens, on va planer quand même, hein. C'est un peu space, ça s'appelle About You. Et le nom de l'artiste, c'est XXYYXX. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo où on plane grave dans les studios après l'écoute de cette musique de XXX, non XXYYXX, voilà le mal nommé comme on pourrait l'appeler. On va maintenant écouter un autre reportage, c'est un interview de Fabien qui est prof d'histoire géo dans un lycée du bassin minier. Il est investi dans le mouvement des stylos rouges qui est une mobilisation de profs et de personnel de l'éducation nationale en colère. Mouvement librement inspiré de celui des Gilets jaunes. Né sur Facebook en décembre dernier, le mouvement des stylos rouges rassemble désormais sur ce même réseau 64 000 profs en colère, mais aussi divers professionnels qui œuvrent dans les établissements scolaires. Ils souhaitent une revalorisation et une reconnaissance de leur travail, de meilleures conditions d'enseignement et des moyens pour l'école publique. Ils portent encore bien d'autres revendications dont nous aurons ici un aperçu. Nationalement, la mobilisation s'organise sur le net, mais dans l'Académie de Lille, des assemblées générales ont eu lieu et ont abouti à des propositions d'action fortes, le blocage partiel du rectorat et la grève du zèle. Pour en discuter, nous avons contacté Fabien, professeur d'histoire géo, dans un collège du bassin minier.
C'est quelque chose qui est né sur Facebook, un peu à l'image des gilets jaunes. D'ailleurs, il y a une filiation parce que gilet jaune et stylo rouge, il y a un lien en tout cas dans la dénomination. Est apparu sur Facebook après l'annonce de Macron le 10 décembre, là, quand il a parlé pour justement les gilets jaunes. Et derrière, certains profs ont réagi en disant qu'il avait rien dit sur l'éducation nationale et du coup qu'il fallait peut-être se mobiliser, sachant que nous, ça fait des années et des années, enfin moi, depuis que je bosse, il y a toujours eu des réformes qui nous ont enlevé des moyens. Donc ça, c'est au niveau national et localement, donc sur l'Académie de Lille. Il y a des gens pendant les vacances de Noël qui se sont constitués en assemblée générale et qui ont décidé d'une plateforme revendicative locale et des actions locales aussi.
Tu parles de l'affiliation avec le mouvement des Gilets jaunes. On sait qu'il y a un ras-le-bol assez global. Pour les stylos rouges, est-ce que c'est dans le même ordre d'idées? Est-ce que c'est une espèce de ras-le-bol qui a motivé la mobilisation?
Je pense que c'est un truc un peu latent. Par exemple, le dernier truc qui a eu un peu d'écho dans les salles des profs, c'est le pas de vague, qui était aussi d'ailleurs partie des réseaux sociaux, avec le fait que dans certains bahuts, on peut avoir de la violence, mais c'est surtout le fait que en face, les chefs, en fait, ils font tout pour pas faire de vague. Et du coup, c'est quelque chose qui est un peu latent, le fait de... aussi d'avoir, par exemple en lycée, alors moi je bosse en collège, mais en lycée ils ont beaucoup d'élèves par classe, les réformes aussi du lycée, les réformes du lycée pro. En décembre, il y a eu aussi Parcoursup, les lycéens qui se sont bougés, et je pense que certains profs aussi ont voulu aussi se mobiliser là-dessus, quoi.
Ce pas de vague, ça montre aussi un manque de lien entre la hiérarchie et le personnel enseignant.
Après, ça dépend beaucoup déjà des établissements et puis des chefs. Il y a des chefs, chefs et des chefs, on va dire plus humains, même si leur boulot, ça reste, moi en tout cas, ça reste la hiérarchie. Mais c'est une tendance. Il y a quand même une tendance du fait que eux sont entre guillemets inspectés chaque année et ils présentent des chiffres au niveau des services académiques. Et notamment, on regarde tout ce qui est exclusion, s'il y a eu beaucoup d'exclusion, etc. Et alors, ce sera vérifié aujourd'hui si ça existe encore, mais en tout cas, il y a des primes aux résultats qui existent. Donc, eux, c'est aussi dans leur intérêt de pas faire de vagues. Et des fois, il y a un conflit entre toi, quand tu bosses, que tu as des difficultés, que tu aimerais parfois qu'on te donne un petit coup de main, et en fait, on te dit, non, c'est pas possible. Et puis il y a toute la lourdeur aussi administrative qui fait que des fois c'est très compliqué d'obtenir par exemple un élève, le mettre dans une structure plus adaptée, etc. C'est très compliqué, quoi.
C'est né sur les réseaux sociaux, c'était un appel sur Facebook initialement. T'as parlé d'assemblée générale au niveau de l'Académie de Lille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la manière dont ça s'organise justement pour porter des revendications? Est-ce que vous allez les porter localement au niveau de l'Académie? Est-ce qu'elles vont être portées nationalement?
Vraiment, à l'origine, c'est un truc qui naît complètement sur Facebook et c'est quelque chose de national. Qui d'ailleurs sur Facebook, c'était assez timide. ils réclamaient pas les actions que nous localement on a essayé de mettre en place, parce que localement on a quand même ça fait deux mercredis qu'on bloque le rectorat, enfin qu'on bloque partiellement le rectorat, et du coup je pense que dans l'académie de ville ça a été vraiment le truc, c'était de se dire ben c'est pas suffisant de rester sur Facebook, il faut se réunir en assemblée générale. Donc il y en a eu quatre, parce qu'il y en a, une aussi aujourd'hui. Et c'est des assemblées générales. Moi, j'y suis allé la semaine dernière. On était quand même 60-70, donc des enseignants, des parents enseignants. C'est pas que des profs, hein, attention. Il y a aussi beaucoup de précaires qui viennent. Donc voilà. Alors au niveau des revendications, pour en gros résumer, il y a eu les revendications. Il y a une plateforme nationale qui existe, qui a été un peu assaisonnée par les stylos rouges Académie de Lille, en essayant de les développer un peu plus au niveau local. Par exemple, la précarité, c'est quelque chose que, au niveau de l'Académie de Lille, on essaye de mettre le doigt dessus, parce que il y a des revendications qui sont très prof-prof, il faut augmenter les salaires, réclamer plus de respect ou je ne sais quoi. Donc, moi, personnellement, c'est pas les revendications qui me bottent le plus. Le plus intéressant, il me semble, c'est parler de la précarité, parler des réformes, parler des manques de moyens. Parce qu'il faut rappeler que l'éducation nationale est quand même le premier employeur de précaires dans le pays, quoi. Donc, enfin, en tout cas, moi, je le vois. Hein, c'est pas des années que je suis prof, mais il y a quand même de plus en plus de contractuels avec des contrats souvent de merde. Il y a des AVS qui sont pour les personnes handicapées là, pour aider aussi les élèves dyslexiques, etc. Ils font 24 heures et ils gagnent 680 euros par mois. Ça dit un peu l'ampleur des fois de la précarité.
D'accord. Et est-ce que tu pourrais justement nous préciser maintenant un peu les revendications ? J'ai pas voulu le faire tout de suite, mais par exemple, on entend pas mal parler d'augmenter les salaires, de pouvoir d'achat aussi. Mais si on est un peu dans le ton du mouvement des Gilets jaunes, en réalité, quand on regarde la page Facebook officielle, il y a question en tête plutôt de revaloriser le métier d'enseignant, d'exiger une bienveillance de l'État envers les élèves, de reconnaître la qualité du travail fourni par le personnel éducatif. Donc en fait, est-ce qu'on parle plutôt de gros sous, ou est-ce que c'est une manière aussi d'occulter médiatiquement le malaise que font remonter les stylos rouges ?
C'est comme je disais un petit peu avant, des revendications, il y en a beaucoup. Moi, voilà, je les dissocie un petit peu. Il y a en effet ces revendications un peu floues, de dire on réclame plus de mensuétude ou je sais pas quoi, d'écoute par rapport à nos dirigeants. Je pense qu'il y a quand même aussi un ras-le-bol que j'ai expliqué juste avant par rapport. Alors, le salaire, c'est vrai, hein, le salaire des profs, il est gelé, on n'est plus indexé par rapport à l'inflation. Enfin bref, ça fait que voilà, c'est sûr, les salaires bougent pas énormes, mais il y a surtout aussi, enfin en tout cas, moi par exemple, si je me suis impliqué dans les stylos rouges, c'est parce que je pense que c'est l'opportunité aussi. Dans le mouvement actuel, de remettre sur la table le fait que non, on n'est pas c'est pas des nantis, l'éducation nationale, il y a plein de précaires, les conditions de boulot, c'est beaucoup d'élèves par classe et toutes ces choses là, quoi.
Comment c'est reçu justement ces revendications en termes de salaire? T'as parlé effectivement de nantis, une espèce de fantasme social qui fait des enseignants des privilégiés. Est-ce que le fait d'insister là-dessus aussi médiatiquement, c'est pas faire passer les profs un peu pour des cheminots, quoi, comme ça a été le cas, des espèces de privilégiés dans leur fonction, dans leur régime.
C'est sûr, dans la tête des gens, c'est clair que on est les cheminots de l'éducation en quelque sorte. On est perçu globalement, les gens, surtout les gens qui bossent dans le privé, c'est voilà, vous avez beaucoup de vacances, vous avez beaucoup de congés, etc. Alors oui, c'est vrai. On va pas cracher dans la soupe, hein. On a du temps libre, mais après, on bosse comme tout le monde, on est des travailleurs. Après, je pense que c'est le jeu de diviser entre gens qui bossent, et puis après, on n'avance pas, quoi. Bon, là, il y a un tract, hein, qui existe sur le Facebook. Là, j'ai pris le dernier tract, et c'est vrai que quand on regarde les points revendicatifs, il y a quand même, allez, quatre points sur l'histoire des salaires. Donc je pense que comme un peu les Gilets jaunes, c'était un mouvement de gens qui sont un peu pressés financièrement, là je pense qu'ils ont voulu aussi mettre en avant ces revendications. Après, en effet, les revendications, c'est aussi les réformes, les dernières réformes qui ont eu lieu sont des réformes globalement qui enlèvent des moyens et qui pour les élèves les mettent en situation par exemple comme Parcoursup de stress quasiment permanent pendant le lycée. Faut pas résumer ça en effet. Si on va dire c'est juste des profs qui veulent plus de salaire. C'est beaucoup plus général et quand on va dans les assemblées générales, quand on voit encore une fois des gens qui sont pas titulaires, c'est aussi des gens qui réclament aussi de meilleures conditions de travail d'ordre général quoi.
Alors ce mouvement des stylos rouges, je me demandais aussi si c'était pas, quand on recontextualise par rapport notamment aux réformes du lycée, par rapport à Parcoursup, les mobilisations qu'il y a pu avoir et qui ont été en finale assez faibles, est-ce que c'est pas un réveil un peu tardif aussi de la part du personnel enseignant vis-à-vis de ça, même si on sait qu'effectivement ils subissent depuis de très nombreuses années de multiples réformes et qui fait que la mobilisation est pas facile.
C'est très très difficile. Enfin, moi, voilà, je suis toujours abasourdi quand des fois avec les collègues, on leur dit qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'il y a vraiment un défaitisme total chez les profs. À entendre, c'est 2003, je pense que, enfin moi 2003, j'étais pas prof, mais 2003, ça a été pour les profs, je pense, le dernier grand mouvement dans lequel ils se sont un peu impliqués. Encore beaucoup de gens parlent de ce mouvement-là, où il y a des gens qui sont partis un mois en grève, etc. Et depuis, j'ai l'impression que ouais, c'est le fétisme, c'est aussi parfois manque de considération. Alors, je vais pas être copain avec tous les collègues de l'Éducation nationale, mais des fois, il y a peut-être manque de regard de ce qui se passe dans la société, parce que nous devant, on a toute une société avec des élèves plus ou moins favorisés et parfois des situations sociales compliquées, et des fois j'ai l'impression que c'est un peu hors sol quoi. Les profs, ils arrivent et ils ont pas conscience que c'est la merde pour les gens qui sont défavorisés, et peut-être ce côté un petit peu encore on se croit encore protégé, peut-être encore beaucoup, et on se bouge plus quand il y a des manifs. C'est de toute façon c'est toujours pareil, en gros il y a 3-4 manifs dans l'année, dans une année scolaire. Et je pense aussi, c'est aussi la faute des pratiques peut-être syndicales qui sont anciennes, de dire à chaque fois qu'on rencontre le ministre à Paris, on va faire une petite manif avant pour essayer de faire un rapport de force. Sauf que en vrai, ça fonctionne pas. Enfin, pour moi, ça fonctionne pas. Et aussi les stylos rouges. Alors, on n'a pas encore parlé des actions qui sont proposées.
Si vous voulez écouter l'intégralité de ce reportage, vous avez qu'à aller voir sur notre page, notre site internet microrebelle.fr. Voilà. Il y a le logo des stylos rouges sur la page d'accueil, vous avez qu'à cliquer et vous pourrez écouter la fin qu'on est obligé de couper faute de temps. Lucien, je te laisse la parole pour le mot de la fin.
Juste pour remercier nos auditrices et nos auditeurs de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dès vendredi prochain, la semaine prochaine, à 18h, en direct sur micro-rebelle.fr. Bonne semaine à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Bye bye.